épisode des Chineurs.
Salut les Chineux, salut les Chineurs, c'est la cinquième émission du Club des Chineurs et je suis en compagnie cette semaine d'Antoine Veit, c'est ça, je le prononce bien ?
Ouais, c'est ça, Antoine Veit.
Qui est musicien et collectionneur de galettes, évidemment, et de l'inénarrable DJ Pirouli. Fred,
bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça peut aller.
Ok. Donc cette émission est dédiée aux amoureux de la galette sous toutes ses formes, 33, 45 et pourquoi pas 25 cm tant qu'on y est. Et je demande à mes invités chaque semaine de nous rappeler, de nous ramener pardon, les disques qu'ils ont chinés tout récemment. Antoine, bon, tu as joué le jeu, tu as ramené des disques que tu as trouvés récemment, je pense, pas loin de chez toi, Clermont-Lérault.
C'est ça, au marché aux puces dimanche.
Mais tu nous as aussi ramené, pour commencer, je crois, un disque coup de cœur, parce que, bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais ton papa était musicien et ton papa a produit des 45 tours. Peux-tu nous en dire quelques mots ?
Ben, je vous ai ramené, en fait, un de ces 45 tours les plus connus, on va dire, même si il est pas très connu. C'est l'histoire d'un groupe qu'il avait dans les années 60, un groupe de potes, ils faisaient pas mal de balles, mais ils ont tenté aussi l'aventure de faire, faire des enregistrements, et ils ont fait une reprise d'un morceau de Curtis Mayfield, et, pour faire du remplissage, comme ça se faisait un peu à l'époque, en phase B, mon père avait composé un morceau qui s'appelle Iceberg 2AM, qui est un morceau instrumental joué à l'orgamon. Et voilà, donc c'est le morceau qu'on va pouvoir écouter.
Sorti sur un label belge ?
Sur un label belge et sur un label français qui s'appelle AZ.
Ok,
voilà.
Les disques AZ, on va écouter ça. D'écouter Antoine, donc le groupe de feu ton papa, qui était organiste comme Eddie Lewis, on en parlait là en antenne. Comment s'appelait le groupe ?
Il s'appelait Tony and the Mule Station.
Ok, un groupe du Nord, tu me disais
un groupe
tout à l'heure.
Du Nord, alors c'était connu sous le nom de Mule Station et Tony c'était le chanteur. Ils avaient un chanteur qui s'appelait Tony Manteau. Voilà,
pas Montana
et non, manteau comme le manteau et du coup voilà, ils avaient sorti ce 45 tours sous le nom de Tony and the Mule Station. Il y a une petite anecdote sur ce morceau que je tiens à préciser, c'est que bon voilà, comme ça se faisait un peu à l'époque, c'était souvent sous l'égide d'un producteur, souvent pas très honnête. Et ce morceau qu'on vient d'entendre a été déposé par ce producteur qui s'appelle Jean Van Loo, qui était le producteur du morceau très connu qui s'appelle Born to be Alive. C'est celui qui a sorti ce morceau de Patrick Hernandez, qui l'a fait connaître.
Et qui le fait vivre encore aujourd'hui.
Et qui le fait vivre encore aujourd'hui, et bien, j'imagine. Et donc c'est lui qui a déposé ce morceau à la SACEM. Et pour la petite anecdote, ce morceau est devenu en fait le générique d'une émission sur Radio Luxembourg. Donc je pense qu'il a été joué une paire de fois et qu'il y a des droits qui ont dû être versés, mais
que
jamais
ton père n'a jamais touché.
Non. Et qu'il n'a jamais réclamé.
Et là, ce qu'on vient d'écouter, c'est la face B de ce 45 tours.
C'est ça, ouais.
Et la face A était donc le générique d'une.
Non, c'est,
la,
c'est bien ce morceau-là.
Qu'on vient d'écouter.
Ouais, c'est bien ce morceau-là qui a été.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Il est.
Puisque la face A, super, c'est une reprise de Curtis Mayfield.
Ok. Voilà. Mais écoute, merci pour ce bon disque que je vais ajouter dans ma wantlist sur Discogs, parce que c'est ma cam. J'adore les sons d'Orgamond. Et,
mais tu peux, il y en a à dispo.
Ouais.
Ouais.
Merci pour la découverte, c'est très très bon.
Je t'en prie.
Ouais, ça fait penser justement à Eddie Lewis. Fred, éminent chineur.
Oui, alors moi j'ai triché, hein. J'ai fouillé dans ma discothèque. Bon, il y a trois références.
C'est pas un disque récemment chopé.
Non, pas du tout. Il y a trois références. Donc il y en a deux anciennes, une très récente.
Okay.
Donc là, dans mes fonds de tiroir, bon, c'est un disque que j'ai trouvé à Barcelone, ça je m'en souviens. Peut-être chez Wawa, le disquaire bien connu. Donc c'est Del Byzantins, The Del Byzantins. Donc il y a un jeu de mots avec Byzantin. C'est le groupe de Jim Jarmusch. Alors Jim Jarmusch, on le connaît bien sûr
pour ses films,
pour ses excellents films, ouais. Jusqu'à Broken Flowers, parce que après moi j'ai un peu plus de mal avec la
suite. Sorti quand Broken Flowers?
Oh, c'est sorti dans les années 90,
d'accord,
je crois.
Dead Man, par exemple, en 95, c'est vachement bien aussi.
C'est pas mal, mais surtout la musique. Moi, j'aime moins le film. Mais moi, je suis un grand fan du début. Donc, je suis un grand fan de Stranger Van Paradise, par exemple, ou de Don Bylo, ou Memphis Train. D'ailleurs, Stranger Van Paradise, c'est vrai que dans Stranger Van Paradise, l'acteur principal, c'est Richard Edson, mais qui a joué aussi, qui était le batteur de Sonic Youth, hein, quand même au début. Donc il y a un lien quand même avec tous ces gens intéressés par le cinéma, mais aussi par la musique. Donc,
oui,
Jim Jarmusch,
il a tourné beaucoup d'acteurs d'ailleurs, Jim Jarmusch.
Oui, beaucoup de musiciens,
Tom,
ouais.
Waits,
Tom Waits,
oui.
Plein d'autres.
Screamy,
ouais.
Jay Hawkins, Joe Strummer aussi, ouais.
Ah ouais, Joe Strummer a tourné avec Jim Jarmusch.
Dans Memphis Train, il a un petit rôle, mais croustillant, quoi. Et donc là, c'était son groupe, c'était une émanation un peu de la scène No Wave, qui avait été produit par John Cale.
Bien,
donc,
début 80 alors.
Oui, c'est sorti en 82, là c'est une version d'un label italien. Bon, ça se trouve, hein, c'est pas le gros collector, mais c'est pas très connu, on sait pas vraiment qu'il avait fait un peu de musique avant, même s'il s'intéressait à la musique, bien sûr, comme John Carpenter, qui a fait beaucoup de ses musiques de films, et de manière étonnante et mémorable. Mais donc là, c'était plutôt un groupe, qui post-punk, new wave, qui sortait de la no wave, donc je le disais. Et avec deux jumeaux qui s'occupaient des percussions de la batterie, un bassiste et un guitare, donc formation assez classique, mais un rendu plutôt intéressant. Truth the hard way.
won't judge your intentions. But if you want the power and the glory, you can just make up a seductive story. If I only have one life, let me live it as a lie. If I only have one life, let me live it as a lie.
Vous êtes bien dans le club des chineurs sur RPH, donc Lies to Live By, c'est le titre phare et le titre de l'album de Del Byzantine, qui était sorti en 1982 avec Jim Jarmusch, le cinéaste, aux vocaux et aux keyboards.
Qui devait avoir une vingtaine d'années à l'époque.
Pas loin, ça t'a plu alors?
Ouais, moi j'aime bien le son de cette époque avec la basse en avant, très Cure, où on en parlait, Talking Heads, ou enfin voilà, post-punk, new wave, on l'appelle comme on veut, mais c'est vraiment typique de l'époque. C'est comme après les batteries électroniques à partir de 85. C'est des repères sonores qui permettent immédiatement d'identifier
l'époque,
le style, voilà, et puis de se référer à d'autres trucs. Et sur quel label? Tu as dit?
Oh, ben là, c'était 4AD, mais je sais pas, une collaboration.
Un label anglais?
Oui, mais bon, c'est un label italien aussi, donc bon, c'est un petit mélange de
À voir sur Internet, donc The Del Byzantines.
Ouais, on vous retrouvez la référence sur Discogs sans problème.
Ouais, évidemment. Et bien, moi, pour commencer cette émission, j'ai pris un double album live d'Henri Salvador. Henri Salvador, il est connu pour ses chansons pour enfants qu'il avait sorties sur son label Rigolo. Et d'ailleurs, Band Bad a fait une très belle compilation de ses productions sur son propre label, puisqu'il avait son home studio. Mais Henri Salvador, c'est avant tout quand même un des grands pontes du jazz à la française, qui a travaillé avec Boris Vian, le blues du dentiste notamment, magnifique. Et là, j'ai amené un double live donc de 1982 enregistré à Pantin avec la crème de la crème du jazz français. Et c'est pas le Henri Salvador déconneur qu'on connaît, c'est le Henri Salvador crooner. Et c'est une reprise de Syracuse avec Maurice Vander au piano, André Ceccarelli à la batterie et Eddie Lewis, dont on citait le nom tout à l'heure, à l'orgue.
J'aimerais t'en voir Syracuse. L'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran. Chanter le vent.
que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à
C'était Henri Salvador à Pantin en 1982 pour votre Saint-Va-et-Vient. On va passer à Antoine.
C'est un peu t'es dansant quand même. Mais bon, grand respect pour le monsieur.
L'orchestration, tu verras que comment il s'appelait l'autre qui faisait les t'es dansants à la télé là.
Lantier.
Non, pas Jacques Lantier. Enfin bref, c'est pas grave.
Ouais, l'animateur. On est bien Tintin.
Oui, voilà. C'est quand même d'un autre niveau avec la crème du jazz français. Antoine, tu nous as ramené quoi pour la suite?
Je vous ai ramené, comme tu le sais, je suis un fan de rock progressif.
Ouais, je le sais.
Voilà, on s'était rencontrés et c'était bien parce qu'on n'était pas du tout sur le même créneau tous les deux. Donc on a pu s'échanger des disques à l'époque.
Ouais.
Donc je vous ai ramené un disque que j'ai chiné donc dimanche d'un groupe qui s'appelle Camel, qui est un groupe anglais originaire de Guildford dans le Surrey, qui a été formé en 71 et qui a un mélange de musique rock et de musique baroque. Voilà, c'est un peu comme ça se faisait souvent dans le rock progressif, des influences un peu classiques mélangées avec du rock. Et je vous ai ramené un disque qui date de 81, qui s'appelle Nude, et qui est en fait
81. C'est la fin du rock progressif, non?
Ouais, voilà. Alors c'est la fin du rock progressif des années 70 et le début du néo-progressif.
Néo-progressif, on appelle ça?
Ouais, ah,
parce que Genesis a commencé à en faire un petit peu dans les années 80.
Genesis a commencé avec Peter Gabriel et s'est arrêté 2 ans après son départ.
Non, mais a continué à en faire.
Oui, mais après c'est devenu un groupe de synthé, quoi.
Ouais.
On peut dire, même s'ils n'ont pas renié leurs origines. Je pensais surtout au néo-prog, je pensais surtout à Marillion par exemple. Qui a pris un peu la suite, quoi.
Que je n'ai jamais écouté. Je sais qu'il est apprécié des progueux, je sais pas si on peut les appeler comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais avec des pochettes très, très bariolées, très particulières.
Comme c'est souvent le cas dans le rock progressif. Toujours des illustrations.
J'écouterai pour pas mourir idiot.
Voilà. Et donc cet album Nude, raconte l'histoire d'un soldat japonais qui s'appelle Hiro Onada. Donc c'est un album concept. Et en fait, la petite histoire, c'est que ce soldat qui était basé sur une île aux Philippines n'a jamais cru que la guerre était finie, la guerre de 39-45, et n'a pas voulu se rendre. Et il est resté sur cette île pendant X années, jusqu'en 74, avec d'autres gars à lui qui sont partis au fur et à mesure, mais ça a été le dernier à rendre les armes parce qu'il demandait à ce que ce soit son chef de brigade qui vienne lui dire que c'était fini, qu'il fallait rendre les armes. Donc voilà, et le morceau que j'ai choisi s'appelle Lies, c'est un blues, on peut dire un peu blues, voilà, dans le rock progressif, et une fois n'est pas coutume, c'est un morceau chanté, qui est pas vraiment le fer de lance de Camel, qui est plutôt un groupe instrumental.
Lies has peace arrived.
Vous êtes toujours sur RPH ou Radio Pays d'Hérault et vous écoutez le Club des Chineurs. Je suis avec DJ Pérouli et Antoine. Merci Antoine pour ce morceau de Mirage très, très bluesy. Moi qui me faisais penser à du Eric Clapton un peu. Que peux-tu nous dire sur le groupe Camel? Et juste en rantaine, tu nous disais que c'était... bon, toi tu es fan de rock progressif. Tu en joues au sein d'un groupe qui s'appelle Echoes. Tu fais des reprises de Pink Floyd. Tu es à la batterie. C'est d'ailleurs le 30e anniversaire de...
50e.
Ah, 50e, oui, pardon.
73.
C'est un lapsus.
2023.
50e ouais. anniversaire de Dark Side of the Moon.
Ouais.
Le parallèle entre Camel, entre Pink Floyd, entre ton activité de batteur au sein d'un groupe de reprises.
Bah moi, j'ai toujours été fan de cette musique-là. Le fait de faire un tribute Pink Floyd, c'est, on va bientôt fêter nos 20 ans. Donc l'année prochaine, ça sera les 20 ans d'Echoes. On s'est monté en 2004. Et en fait, moi, j'ai toujours été fan de cette musique-là, et j'ai rencontré un gars avec qui s'appelle Romuald, qui est un des guitaristes du groupe, avec qui on a eu ce déclic de faire ça à l'époque où les tributes ça commençait à peine dans la région et dans le sud de la France. Et donc effectivement, ça va être les 50 ans de la sortie de Dark Side of the Moon, qui est quand même un disque phare dans la discographie internationale.
Ouais, on en parlait en antenne aussi, un des albums les plus collectionnés de tous les temps, les plus réédités. C'est incroyable.
C'est ça.
Le nombre d'éditions, il suffit d'aller sur Discogs. Mais il y en a 250 éditions.
Je sais pas, mais bon, ça va être encore...
Rien qu'en vinyle, 150.
Ouais. Donc là, ils vont encore en sortir une énième pour les 50 ans. Bon, c'est archi usé tout ça, mais bon, nous en tout cas avec le groupe, on voudrait faire une setlist vintage, essayer de pouvoir refaire la setlist des années 73-74, quoi, quand ils ont sorti l'album.
Ok, qui voilà. N'était pas uniquement composé de morceaux de Dark Side of the Moon, mais des morceaux peut-être des premiers albums.
Alors, il y avait une première partie.
Vous
avec
pourriez
des...
faire ça, vous pourriez faire.
En fait, ils jouaient l'album en entier, ça c'est sûr.
Ils jouaient l'album en entier.
Ouais, mais avec quelques morceaux en plus du répertoire des années précédentes.
J'ai réécouté récemment Money. Ce morceau-là n'a absolument pas vieilli, quoi. Le reste, après il y a les autres albums, Wish You Were Here et tant d'autres, mais
Dark Side, c'est terrible.
Mais Dark Side of the Moon et le morceau Money, c'est vraiment.
C'est
déjà
ça.
Le fait que ce soit pas un rythme binaire Fred, qu'en penses-tu? Est-ce que tu es fan de Pink Floyd, toi qui es fan de post-punk et de musique noise et autres?
Je suis fan de Pink Floyd, mais que avec Syd Barrett. Donc ça se limite.
Ah,
ça
les se deux limite premiers quand même albums.
À... Oui, mais là j'ai lu dernièrement qu'il y avait en fait que vraiment le premier album. Mais c'est vrai qu'avec les compilations, les morceaux un peu
ouais, le deuxième
inédits,
album, il
les
était
singles,
déjà
on a de quoi faire 5-6 albums. En tout cas sous influence de Syd Barrett, avec aussi More, avec aussi voilà. Donc j'ai 5-6 albums quand même à la maison que j'adore. J'adore, et j'adore la carrière solo aussi de Syd Barrett. Hein.
Ouais. Ouais,
c'est pour moi très très grand, très psychédélique.
Tu as vu le film Mort de Gerd Schroeder forcément?
Oui, 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 j'ai vu. D'ailleurs, en parlant de film, je suis revenu à la référence dont on parlait. Onoda, donc c'est sorti en film en 2021, et c'était Onoda 10 000 nuits dans la jungle.
Ok.
Vous suivez?
Oui, oui, oui.
C'est sur l'histoire du soldat japonais qui
m'a sauvé. Il me semble que je l'ai vu aussi.
Alors ben oui, Ferry Jimmy. Alors là, c'est vraiment une curiosité. Là, je suis passé justement dans quelque chose que j'ai acheté récemment.
Sur le label Acid Jazz, non?
Oui, le label Acid Jazz, donc de Gilles Peterson, quand même. Hein. Enfin, c'est une réédition.
C'est plus, c'est plus lui qui s'en occupe depuis longtemps.
Oui, mais bon, c'est quand même lui qui l'a monté.
Ouais.
Alors la petite histoire sur ce disque, donc c'est un.
Tu savais pas que le label Acid Jazz existait toujours?
Ouais, peut-être qu'il s'amuse à faire des choses à des moments donnés comme ça, de manière ponctuelle. Mais donc c'est c'est un disque qui est une réédition, hein, donc avec, qui s'est rajouté de quelques 45 tours. C'est en gros tout ce qu'a fait Fairy Jimmy. Alors Fairy Jimmy, vous le connaissez pas, mais il a été quand même garde du corps de Jacques Chirac avant, avant que Jacques Chirac soit maire de Paris. Hein. Mais sa musique, c'est plus un mélange d'afrobeat, de bon, il y a un peu de Jimi Hendrix. Et là, ça m'a fait penser, un rapprochement très surprenant. Bon, c'est quand même le Bénin, mais ça m'a fait penser à de la musique actuelle d'Afrique du Sud, de BC Usyk, qu'on avait vu ici lors des Nuits Couleurs, justement. Et c'est une réédition où il y a eu une concurrence là-dessus, parce que c'est deux personnes qui étaient dans l'Aquitaine qui se sont bataillées. Donc le journaliste Florent Mazzolini de Bordeaux et le label Jet Records de Biarritz qui essayait justement de ressortir ce disque, mais en ayant contacté la fille du musicien pour faire des choses dans les règles et en payant des droits aux ayants droit. Mais les bandes n'étaient plus présentes, donc il fallait trouver une copie assez clean d'un collectionneur. Donc la moindre copie, c'est quand même 500-600 euros. Donc il faut que le collectionneur soit quand même... Il trouve aussi un intérêt et que sa copie soit vraiment propre pour récupérer la musique.
Les copies de copies, je ne suis pas garanti que ce soit bon. Après, avec les moyens d'aujourd'hui, les ingé sons, ils sont capables de nettoyer au maximum. Mais bon, un bon remastering sans avoir les bandes originales.
Oui, mais bon, là, ça sonne.
Ça sonne bien.
Oui, ça sonne bien. Et t'as entendu, je pense, sur une piste de danse.
Il n'y a pas des plaintes sur Discogs, des mecs qui disent « Ouais, c'est quoi cette copie de merde ?»
Non, parce que c'est le seul moyen de l'avoir. Il n'y a pas grand monde qui peut mettre 500 balles sur une curiosité. C'est quand
même... Gatefold.
Version Gatefold, avec toutes les notes de pochette bien expliquées. Double disque, double album.
Tu l'as bien protégé avec même le
plastique. J'ai trouvé des
Gatefold.
Pochettes qui vont bien.
Alors là... Franchement, là, c'est le chineur ultime. Il a même réussi à protéger sa pochette entr'ouvrante, s'entr'ouvrante.
Et avec le sticker original toujours collé sur la pochette.
Revenu sur la pochette.
Bon, très bien. Mais j'irai écouter Fairy Jimmy. Je ne connaissais pas. Je pense que les auditeurs non plus ne connaissaient pas. Pour tous les amateurs de Fela, les amateurs d'autres grands musiciens africains, je pense que c'est certainement un must-have. Pour suivre, qu'est-ce que j'ai ramené? Alors, j'ai ramené du kitsch. Derrière un album kitsch et une pochette ultra kitsch se cache une reprise de Jimi Hendrix, reprise du fameux Hey Joe, qui n'est pas de lui d'ailleurs. J'ai oublié qui a écrit Hey Joe, mais c'est Hendrix qui l'a popularisé. Ce morceau a été repris et repris.
La version de Love est très bien.
Ah, la version de Love que j'ai vu sur scène, malheureusement, il était bourré, le chanteur, j'ai oublié son nom, mais
Arthur Lee,
ouais. Et donc l'artiste, c'est Santa Esmeralda. C'est les disques que vous voyez partout quand vous chinez, parce que c'est vraiment du disco kitsch. On appelle ça de l'eurodisco. C'est produit par des Français. Mais écoutez cette reprise des Joe.
That gun in your hand. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my old lady. I caught her messing around some other man. I gotta go out and shoot my old lady. I saw her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your woman down.
vient d'écouter Hey Joe, repris par Santa Esmeralda en 1978, un morceau qui sort complètement du style de Santa Esmeralda, voilà, qui était de l'eurodisco très 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 kitsch, avec les costumes pourris qui allaient avec. Antoine,
oui,
pour pas pour conclure cette émission, mais pour conclure le tour de table, que nous as-tu ramené?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai joué le jeu, donc j'ai trouvé un disque de Jess Rottel, qui est un groupe toujours pareil, un peu rock progressif, anglais.
Ian Anderson, non?
Ian Anderson, qui est le flûtiste et le leader du groupe. Et c'est un album de 1969 qui s'appelle Stand Up, que je cherchais depuis très longtemps et que je n'avais pas. J'ai presque tout, parce que je suis assez complétiste comme garçon.
Et non.
Oui.
On n'est pas comme ça.
Et j'ai trouvé cet album dimanche. Et donc j'ai sélectionné le morceau qui s'appelle Labouré, qui est basé sur une pièce pour luth composée par Beethoven.
En deux mots. En deux mots.
Labouré, en fait, eux ils disent bourré, mais c'est labouré.
Okay.
Oui, en deux mots, pardon. Okay. Qui est une danse typique française, je sais pas quel siècle, bref. Bourré en mi mineur. Pour la petite anecdote, Ian Anderson a joué une version en duo avec un astronaute de la NASA qui s'appelle Caddy Coleman, et c'était dans la Station Spatiale Internationale, donc ils ont joué ça en duplex, pour fêter les 50 ans de la présence humaine dans l'espace.
Ce morceau-là?
Oui, ce morceau-là.
c'était J'ai trop tulle.
Oui.
Comment s'appelle ce morceau ?
Bourré.
Ok. Et c'est pas mal. On en parlait en antenne. Moi, j'ai écouté Aqualung récemment. Il me semble que c'était sorti en 72, Aqualung, ou 71.
Moi, je dirais 70.
70.
Ouais, c'est l'album.
Je suis tombé sur une
celui-là.
Réédition en CD il n'y a pas longtemps dans un vide-grenier. J'ai écouté ça dans un dépôt-vente. Et j'avais écouté ça dans la voiture. D'ailleurs, pour l'anecdote, le responsable du rayon vinyle à 7, chez MAU7, est un gros fan d'origine tchèque et un gros fan de J'ai trop tulle. Et il n'arrêtait pas de m'en parler. Fan de rock prog, J'ai trop tulle. Il va falloir que j'écoute un peu un jour. Et Aqualung, j'ai bien aimé. Et là, je ne connaissais pas cet album. J'irai écouter un peu le reste des productions de Jan Anderson.
Ouais, mais celui-là, je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment typique de l'époque 69, Stand Up, il s'appelle. Très très bon album.
Ok, voilà. Ouais, bonne époque pour la musique, hein, dans tous les styles. Fred, tu nous as ramené quoi ?
Alors, on repart à New York, donc avec un compositeur qui s'appelle Rich Chatham.
Alors. En quelle année ?
Alors, lui, il a actuellement 70 ans, là, je viens de voir. Il est né en 1952. Là, c'est un album qui est sorti en 89. Donc il est connu pour s'être intéressé vraiment beaucoup à la guitare. Alors bon, New York, c'est quand même Steve Reich et John Cage et Philip Glass, la musique contemporaine. Bon, ils étaient plus sur le clavier, ils sont toujours pour ceux qui restent, mais je crois plus, non, peut-être plus. Clavier
et Laurie Anderson aussi.
Laurie Anderson aussi sur les voix, mais bon, le clavier, le piano. Glenn Branca, comme Tom Verlaine, hein, qui vient de disparaître de Television. Lui, c'est vraiment la guitare, comme aussi Glenn Branca. Alors Glenn Branca, lui, part sur de la musique beaucoup plus extrême. Il force la guitare, il va dans le côté obscur de la guitare. Rich Chatham, il part plus sur la mélodie. Alors il a créé Guitar Trio, donc qui est la pièce maîtresse. Il a fait aussi des concerts à Paris avec 100 guitaristes, passés sous audition au préalable. Pour certains de ses projets, il y a aussi Paige Hamilton, donc je ne sais pas si vous connaissez, donc le guitariste de Helmet, donc le groupe de hardcore metal grunge qui revient sur le devant de la scène. Paige Hamilton donc a joué avec Rich Chatham avant de jouer avec Band of Susans, qui est un autre groupe un peu ligné Sonic Youth, qui a repris aussi Guitar Trio. Donc on va écouter Guitar Trio, mais je parle dessus, je suis désolé, mais c'est un morceau très très long. Assez long, mais qu'on savoure, mais on va quand même le laisser filer parce que la mission est assez courte, mais on va le laisser filer un petit peu quand même, non Axel, ouais. Donc c'était Rich Chatham, guitare trio, hein, sa pièce maîtresse. Vous êtes toujours sur RPH
ou Radio Pays d'Hérault.
Ou Radio Pays d'Hérault. Il y a plusieurs fréquences, que vous soyez à Lodève, Pézenas, Clermont-l'Hérault, Gignac. Voilà, ça évolue sur toutes ces fréquences. Et puis bien sûr en ligne, vous pourrez retrouver le podcast prochainement. Le but de l'émission
rphfm.org.
aussi. Yes. Et le but de l'émission aussi, c'est de parler des disques en Chine, mais aussi d'aller dans des événements dédiés aux collectionneurs et aux amateurs de musique, tout simplement. Donc dans la région, ça va vraiment démarrer, on en reparlera prochainement sur le printemps. Mais il y a deux petits événements dont on peut parler. Donc le 4 mars, c'est à Montauban, c'est pas très très loin, puisque maintenant c'est la Grande Occitanie. C'est la bourse au disque, vinyle, CD, DVD et bande dessinée. Et je serai personnellement, je me fais un peu de pub, exposant à Castelnau-le-Lez, donc c'est le 26 février. Au salon des collectionneurs, alors entre du parfum, des petites capsules de champagne et quelques bandes dessinées, voire des timbres et de la monnaie, donc des collections qui sont un peu moins vivantes, on va dire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Il y aura du vinyle et je serai présent, donc toute la journée, c'est entrée libre, il y a de la restauration, et c'est de 9 à 17 heures et c'est à l'espace Kiasma, qui est un bel espace en plein cœur de ville.
Merci Fred pour ce petit agenda des bourses au vinyle. C'est vrai qu'il faut aller dans ce genre d'événement pour trouver des bons disques. Il faut aller un peu partout, chez les disquaires, en ligne, dans les dépôts-ventes, les Emmaüs, les ressourceries, etc., etc.
Les puces.
Les puces, voilà, pour ceux qui aiment se lever tôt le week-end. Et pour conclure cette émission, je vais terminer par un morceau qu'on va qualifier de libidineux. d'un groupe underground disco américain, Universal Robot Band, mais en fait c'est un morceau de Sammy Gordon. Alors Universal Robot Band, ça vous dira rien, mais en fait c'est Greg Carmichael et Patrick Adams, claviériste, et donc des producteurs de disco underground fameux. Rien à voir avec Boney M, rien à voir avec ABBA. C'est le disco new-yorkais tel qu'on pouvait l'entendre dans des clubs comme le Paradise Garage à la fin des années 70. Bonne Saint-Va-et-Vient à tous.